Land Voice. Informer les communautés locales du département de l'océan sur les droits fonciers et aux ressources naturelles, tel est le fil conducteur de cette émission diffusée sur les ondes de Radio Kouli Makeli. Nous émettons depuis Kribi, chef-lieu du département de l'océan, région du Sud Cameroun. Land Voice, c'est tous les lundis, entre 10h et 11h. Avec l'appui financier de l'Union européenne, ce programme est une production du réseau de lutte contre la faim RELUFA dans le cadre du programme LandCam, mené en collaboration avec le Centre pour l'environnement et le développement CED et l'Institut international pour l'environnement et le développement IIED. Microphone de présentation, Emmanuel Junta.
Land Voice, le sommet.
Nous connaissons les limites. On connaît d'abord les anciennes bornes de la Sucapalme, pas les fausses bornes qu'ils ont. Moi, j'appelle ça fausse borne.
Ce n'est ni un ton de quelqu'un qui désespère, encore moins un défi lancé à la Sucapalme. Mais Sa Majesté Zétois Richard, chef de village Bidou 3, que vous venez d'écouter, exprime le sentiment de la plupart des communautés dans le département de l'océan quand on évoque le problème des terres et particulièrement les limites réelles des terrains acceptés par tout le monde entre les villages et les agro-industries, sans oublier les grands projets d'infrastructure ou d'investissement.
La population riveraine estime que la Sucapalme s'est accaparée de leurs terres. Alors aujourd'hui, il fallait rafraîchir pour savoir qui se trouve où entre Sucapalme et les populations riveraines.
Jules Germain Kamta, chef du département ressources humaines de la Société camerounaise des palmeraies, que l'on vient d'écouter aussi, dit que sa société veut trouver enfin une solution sur la question des limites entre la Sucapalme et les villages voisins. Mais il faut dire qu'entre ce que les communautés réclament de bon droit, les promesses qu'on leur a déjà faites au sujet de la terre, les bonnes intentions de ceux qui occupent d'énormes espaces de terre dans le département de l'océan, beaucoup de temps a déjà passé et l'attente dure. Car il n'y a pas que la Sucapalme et ses riverains qui soient concernés par le problème de la démarcation des limites dans le département de l'océan. Evecam, qui cultive les VA, avait annoncé en 2018, après un litige foncier avec les riverains, que désormais, 4 km vont séparer ces plantations des villages. Les agro-industries Camvert et Biopalme, qui sont en train de s'installer dans le département de l'océan, sont aussi cités pour le même problème des limites. Ces deux sociétés ont quand même entamé des séries de discussions avec les communautés riveraines, mais celles-ci ne sont pas totalement satisfaites. On peut aussi ajouter sur cette liste des sociétés concernées par le problème des limites la SAO, qui cultive le cacao sur de grands espaces de terre, sur la route Kribi-Grand Zambie, en partant vers Bipindi. Toutefois, là où on a déjà commencé à parler du problème des limites, certaines communautés pensent que cela va apporter des réponses sur les droits qu'elles ont sur la terre et comment elles peuvent utiliser la terre qui les a vues naître. C'est là l'une des activités du projet LandCam, à savoir collaborer avec les principales parties prenantes à travers le Cameroun pour améliorer les droits coutumiers et officiels liés à la terre, aux ressources naturelles et conduire au niveau local des initiatives pour une meilleure gouvernance foncière, tout en contribuant aux réformes pratiques des politiques sur l'accès, l'utilisation de la terre et aux ressources naturelles. Vous avez sans doute compris, nous allons parler ce jour du processus de démarcation des limites entre les agro-industries, les grands projets d'infrastructures d'investissement et les riverains dans le département de l'Océan. Encore que, parfois, les communautés sont concernées elles-mêmes par ce problème. Un reportage vous sera proposé dans quelques instants. Il a été réalisé par Salomon Albert-Tap. Notre invité s'appelle Edouard Mfom Engo de l'ONG CADER, le cercle d'appui au développement rural. Avec Edouard Mfom Engo, nous allons parler de l'apport de la cartographie participative sur le problème de la délimitation ou encore la démarcation des limites entre les communautés, les agro-industries, les grands projets d'investissement et d'infrastructures. Vos deux autres rubriques habituelles sont également au menu, le Vox Pop et l'éditorial, le point de vue sur le sujet du jour. À toutes les communautés branchées sur Radio Nkoulimakeli, à l'écoute de votre émission Land Voice, votre fidélité nous honore. Asseyez-vous confortablement, nous vous revenons dans quelques instants.
Vous écoutez Land Voice sur Radio Nkouli Makeli. Land Voice, l'éditorial.
Selon le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, les litiges fonciers en 2016 ont représenté 65% des cas portés devant les tribunaux civils et 85% des cas devant les tribunaux administratifs. Cela démontre que la bataille des uns et des autres pour l'accès à la terre et sa sécurisation est sans cesse croissante au Cameroun. Une évidence coule cependant de source. Les communautés rurales en matière de propriété, d'accès et d'usage des terres sont les plus menacées par les investissements agricoles à grande échelle. Les projets d'infrastructure, l'exploitation forestière, des mines, entre autres. Par ricochet, ces communautés sont les plus mues par l'ardent désir de protéger les limites de leurs terres vis-à-vis des prédateurs économiques des espaces fonciers, pour ainsi dire. Mais depuis le décret du 16 décembre 2015, qui a fait de l'État le gardien de toutes les terres, il peut, à ce titre, intervenir en vue d'en assurer un usage rationnel ou économique pour la sauvegarde des intérêts de la nation. Plusieurs experts sur la question estiment que ce décret, tout comme l'ordonnance du 6 juillet 1974 portant sur le régime foncier et domanial et les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, ou encore l'ordonnance du 27 avril 1976 sur les conditions d'obtention des titres fonciers, n'ont pas suffisamment protégé la notion de propriété collective de la terre, plus ancrée dans les usages coutumiers. C'est ce qui rend, en d'autres termes, les limites foncières extrêmement fragiles et dangereusement conflictuelles de nos jours. Incapable de faire le bras de fer contre l'État, gardien des terres considéré par d'autres acteurs comme ancestral, les communautés vivent continuellement une forme d'exaspération. Cette fragilisation de la masse rurale sur la gestion de la terre, la prise de décision sans pression sur son usage, est vécue ici et ailleurs, y compris dans le département de l'Océan, comme une rupture avec la perception culturelle du foncier. Les limites des champs, exploités par la grand-mère, le grand-père, le père ou la mère ne sont plus des références qui s'imposent à tous. Le nouveau référent, le titre foncier, un luxe par ailleurs, a finalement classifié la société, déconstruit de solides liens familiaux et opposé les communautés aux investisseurs et par extension poussé celles-ci à maudire l'État puissant, passez-nous l'expression. Et puisque certaines possessions ne s'acquièrent pas seulement par la force de la loi ou de l'argent, certaines dites foncières ramènent plusieurs au bon sens et replacent au centre des enjeux la nécessité de se pencher sur les limites réelles entre les villages et les porteurs des grands projets d'investissement. Et puisqu'également, pour le cas du palmier à huile, la garantie de l'accès aux financements internationaux et aux marchés va s'accompagner de la certification. On voit de plus en plus au Cameroun les agro-industries du secteur explorer les pistes de la démarcation des limites. Ce processus que l'État donateur des terres suit de près peut désamorcer la bombe foncière et éteindre le feu qui couvait. À ce titre, l'on attend avec grande impatience l'issue du processus enclenché par exemple depuis la fin d'année 2019 pour la démarcation des limites entre les villages riverains de la Sokapalme Kinké et le département de l'Océan. De bonne source, le rapport de cette opération a été transmis à l'attention du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Information confirmée le 16 septembre dernier lors de la rencontre tripartite État, Sokapalme et riverains de l'agro-industrie. Mais va-t-on encore se lancer dans un exercice de démantèlement du labyrinthe des décisions sur le foncier pour calmer les cœurs bouillants des communautés, soucieuses de connaître enfin à qui appartient tel et tel autre espace de terre? Dans le département de l'Océan, le chemin peut paraître encore truffé d'embûches, mais rien n'est impossible. Car, dans la pratique, il est loisible de constater que de plus en plus de communautés ont pris conscience sur les démarches à suivre pour marquer de leur empreinte la gouvernance foncière au Cameroun et dans le département de l'Océan en particulier. Un terrain plein d'embûches, une démarche de persévérance que nous vous offrons à entendre au cours de cet autre numéro de Land Voice sur Radio Nkoulé Makeni.
Land Voice, le reportage.
Dans le département de l'Océan, les communautés veulent connaître les limites de terre entre elles et toutes les sociétés qui mènent des activités à côté de leur village. Bantous et peuples autochtones de forêt comme les Baguili, toutes ces communautés posent le même problème. Il faut aller dans les villages comme Pungu Aviation, Bidoun 3, Niété ou encore sur la route qui va vers Kampo pour comprendre pourquoi ce problème fait tant mal au cœur des communautés. Sokapalme, Evekam, Biopalme, SAO, Camvert ont aujourd'hui choisi de parler du problème de leurs limites avec les riverains. Mais jusqu'à quel point l'État, qui est le propriétaire des terres selon la loi, arbitre cette démarche qui doit normalement ramener la paix et permettre à chaque partie d'occuper désormais et d'exploiter les terres sans nuire à l'autre. Écoutons ce reportage réalisé dans ces villages avec beaucoup d'acteurs par Salomon Albert Ntap.
La terre est parfois une source de développement et de progrès. C'est pourquoi son absence peut être à la base des luttes et de la misère. Ainsi, sa gestion est constamment un enjeu pour les pays en développement. Pour cause, la variance des acteurs et des intérêts autour de la terre. Le Cameroun n'échappe pas à cette réalité, notamment avec le problème des limites des terres. Dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun, ce sujet se pose comme un véritable serpent de mer. Principaux acteurs, les agro-industries et les villages riverains. Qu'il s'agisse des sociétés implantées depuis les lustres telles que Sokapalme et Evekam, ou des nouvelles comme Camvert, le mal est présent, affectant à la fois les Bantous, mais aussi les peuples autochtones de forêt, riverains de ces agro-industries.
Il y a
Le village Pungu Aviation, situé à 13 km de Kribi, chef-lieu du département de l'Océan, est l'une de ces localités concernées par la problématique de démarcation des limites du fait de sa proximité avec la plantation Kinké La Soka Palm et les installations aéroportuaires.
Pungu Aviation est un village particulier qui est complètement dans l'emprise de l'aéroport de Kribi.
Hervé César Bimpang est originaire du village Pungu Aviation. Sa voix compte parmi ceux qui décrit le flou autour des limites entre la Soka Palm et son village notamment.
Alors le seul espace qui nous est resté pour les cultures et éventuellement des habitations, c'est cet espace qui est aujourd'hui occupé par... ou plutôt que l'agro-industrie prétend être sa concession.
Au centre de cette querelle, le non-respect par l'agro-industrie des limites telles que prescrites par le décret de concession de 1974. Patrice Minya est ressortissant du village Pungu Aviation.
C'est 21 720 hectares. Et après, lorsque l'État cède la Soka Palm aux mains des privés en 2000, c'était le 21 720. Maintenant, on est en 2005, il y a eu un avenant que l'État a également signé qui réduisait la superficie de 22 720 à 18 500. Donc, actuellement, nous osons croire que la Soka Palm devrait exploiter 18 500 hectares. Mais sauf que le problème qui s'est posé lorsque nous participions à la plateforme, c'est que la Soka Palm, dans la reconstitution des limites, est partie sur la base de 21 720. Donc, on a eu ce problème là-bas qui est encore en suspens. Nous sommes partis sur la base de 21 720 au lieu de nous faire partir sur la base de 18 500.
Concrètement, la Soka Palm Kinké occuperait 3220 hectares de plus autour des 20 villages riverains de sa plantation. Et pour le cas spécifique du village Pungu Aviation, ce sont 500 hectares qui seraient au cœur de la discorde avec l'agro-industrie selon les riverains. Sur le terrain, la bataille est réelle et franche entre les deux camps. C'est chacun selon l'expression consacrée qui veut gagner du terrain. Les communautés ont entrepris des démarches auprès des autorités compétentes.
C'était qu'une piste par laquelle Soka Palm faisait sortir les produits de sa plantation, donc les régimes. Donc après avoir étendu, comme vous avez pu voir là, ils ont également aménagé cette route dans le but de s'étendre de l'autre côté.
Hervé César Bimpan se rappelle que leur engouement a été interrompu par une scène cocasse.
C'est au moment donc de lotir, quand on a engagé des travaux de lotissement, qu'on a été arrêté.
Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le sous-préfet est venu.
On a vu débarquer le commandant de compagnie avec des éléments de gendarmes qui ont demandé à celui qui faisait les travaux d'arrêter.
Pungu Aviation, n'ayant pas d'espace, comme je vous l'ai dit, a initié un projet d'immatriculation sur cet espace. Alors, nous avons fait une demande d'immatriculation qui a été validée. Nous avons obtenu des titres fonciers. Nous avons par la suite fait une demande de lotissement. Et au moment de l'exécution des travaux de lotissement, qu'on s'est vu arrêter, soi-disant cet espace appartient à Soka Palm, donc dans la concession de l'agro-industrie qui est Soka Palm.
Pour les habitants du village Pungu Aviation, le désarroi est total et le malaise profond, obligés qu'ils sont désormais de voir leur terre s'aménuser considérablement sans en connaître les bords. Venue ici en mariage il y a plusieurs années, Suzanne Mamvula est agricultrice. Elle ne découlère pas sur cette situation des limites entre la Soka Palm et le village.
Soukapalme nous dérange. Chaque jour, ils apportent des voitures, là on fait les champs. Ils nous ont occupé tous les terrains. Parce que quand je suis arrivée en mariage ici, là, j'avais trouvé mes belles-mères qui faisaient des champs un peu partout. Mais depuis que Soukapalme s'est installé, Soukapalme, ils ont pris une grande partie qui n'ont rien fait aux riverains. Mais actuellement, là où on a laissé une petite piste pour faire les champs, ils arrivent là. Ils font entrer, comme ils ont les moyens, ils ont les délégués, ils ont tout. Même si tu es en train de travailler, tu te dis de laisser. Tu abandonnes. L'année passée, c'était comme ça. On avait défriché à battre tout. Ils sont arrivés avec l'État. Ce qu'on parle derrière l'État. Ou c'est l'État qui l'encourage, nous, on ne sait pas. Ou nous aussi, nous, les riverains, nous ne sommes pas de l'État, nous, on ne sait pas. On n'a pas fait les champs.
D'après Roussel Barbara Lienou, assistant de direction, chargé de la communication à la Soukapalme, en 1974, la superficie de la Soukapalme Kinké était de 21 720 hectares. Après la révision du bail en 2005, la superficie actuelle de la plantation de Kinké est de 18 500 hectares. Seuls 12 000 hectares sont effectivement occupés par le palmier à huile. Cependant, l'agro-industrie demeure sur le banc des accusés au sujet de ses limites avec les villages riverains. La situation à Pungo Aviation demeure pour le moins compréhensive. Hervé César Bimban.
Aujourd'hui, nous avons des titres fonciers dont on ne peut pas jouir. Nous avons cette forêt, cette partie de terrain qui reste, dont on ne peut non plus jouir du fait de la Soukapalme.
Avec la mise en place d'une plateforme de dialogue entre l'État, la Soukapalme et les villages riverains, ces derniers ont vu l'une de leurs revendications sur la sécurité foncière aboutir à travers le lancement du processus de démarcation des limites. Germain Jules Kamta, chef du département des ressources humaines à la Soukapalme.
Il était question, Soukapalme en tant que société citoyenne, de repartir vers le bailleur qui est l'État pour le saisir d'une correspondance en vue de la délimitation claire des limites. Parce qu'il faut dire que initialement, les bornes étaient très espacées et ne facilitaient pas les limites. Donc on pourrait imaginer un seul instant que de bonne foi, les gens puissent être à gauche comme à droite.
Sous les auspices du service départemental du cadastre et du domaine foncier, qu'accompagnait une équipe technique instituée depuis Yaoundé par la tutelle, des descentes ont été faites sur le terrain afin de clarifier définitivement ce problème foncier entre l'agro-industrie et ses riverains. Sur ce point, la Soukapalme recuse d'avoir fait ce travail sans une sensibilisation au préalable des communautés riveraines.
Il y a eu des sensibilisations des populations, l'explication au niveau des préfectures, les préfets sont descendus sur le terrain, il y a eu des sensibilisations. On expliquait aux populations le bien fondé des travaux, de démarcation des lignes, comme vous avez, des limites, comme vous avez dit, et d'état des lieux par la suite. Donc, ce travail a été fait avec la participation des populations qui accompagnaient les riverains, les communautés riveraines accompagnaient Soukapalme et l'équipe technique cadastrale sur le terrain pour ces délimitations-là.
Les populations du village Pungo Aviation déclarent malheureusement n'y avoir pas pris part.
Je suis impliqué, s'il faut l'évaluer, à près de 80% dans les revendications des terres de mon village vis-à-vis de la Soukapalme.
Minya Patrice Gérard, membre de la tripartite au compte du village Pungo Aviation.
Il était question que les services de cadastre descendent dans le village, prendre au moins deux personnes qui devaient les accompagner dans les brousses afin de procéder à cette délimitation. Mais il semblerait que ça n'a pas été le cas. Ils se sont retrouvés en Bruxelles et ont sorti leur carte seule.
À Pungo Aviation, ce processus de démarcation des limites serait peut-être-t-il déjà mort dans l'œuf ? C'est d'autant plus que les voix s'élèvent d'emblée pour contester le rapport à venir. Minya Patrice Gérard, membre de la tripartite au compte du village Pungo Aviation.
Si jamais ça arrive que c'est un autre défaut, on va contester. va dire que nous, on n'a pas été impliqués.
Désormais sans sécurité foncière et coincé entre, d'une part, les plantations de la Soka Palm et d'autre part, l'aéroport de Kribi, les populations de Pungo Aviation sont obligées de pratiquer l'agriculture aux abords des maisons. Malédiction ou simple expression de l'appétit un peu trop poussé de la Soka Palm. Autre lieu, Bidoun 3, dans l'arrondissement de Niété, village situé sur la route reliant Akom 2 à Kribi. C'est près de 800 âmes qui vivent ici en harmonie. La principale pompe de discorde avec la Soka Palm, c'est la part dévolue au village sur les 3500 hectares que l'agro-industrie doit rétrocéder aux 20 villages riverains. Sa Majesté Zé Charles, chef du village Bidou 3.
Parce que automatiquement, qu'on les situe ici. C'est ça. Les 3500 hectares, donc, ils vont faire comment? Et nous, c'est comment? C'est pour nous. Ou bien c'est encore. On sait que les terres, c'est pour l'État. Hein? Et nous sommes les gardiens de ces terres-là. Parce que nous, là, c'est les cultures. Parce que si maintenant, c'est comment on vient encore tout ça? Nous sommes là. Moi, je viens déjà. Et mes enfants, voilà ma progéniture. Hein? Ils vont travailler où?
C'est pourquoi, pour les populations de ce village, il n'est pas question de consentir des terres plus qu'il en faut à l'agro-industrie suspectée de vouloir jouer parfois un jeu trop. Sa Majesté Zé Charles.
Nous maîtrisons les limites, hein? Mais ce n'est qu'eux qui veulent faire les jeux. Moi, ici, moi, j'ai maîtrisé bien les limites. Que même là, nous quittons de signer que bon, voilà la première borne qui a été plantée par la Soka Palm. Maintenant, comme ils voient les terrains comme ça, eux, ils veulent maintenant entrer comme ça. Mais nous, on dit non, ce n'est pas ça.
Les populations de Bidou 3 veillent donc au grain afin d'éviter toute mauvaise surprise, même si elles ne verraient pas d'un mauvais œil que la Soka Palm exploite à nouveau l'espace que l'État les rétrocéderait, pourvu que cela se passe dans le strict respect des règles administratives.
On plante les bornes dans les zones humides. Dans la logique des choses, vous pouvez aller mettre une borne dans une zone humide, dans le marécage.
C'est pourquoi, lors de la descente de la commission chargée de la démarcation des limites entre le village et la Soka Palm, constatant des manquements du service départemental du cadastre, les populations ont exigé ou obtenu, après avoir saisi l'autorité administrative, l'annulation pure et simple de cet état de lieu, rapporte le chef de village.
Parce qu'ils sont arrivés, hein? Ils n'ont pas associé le chef et les notables. Donc, c'est fâché. Et tout a été annulé. Il ne peut pas devenir qu'ils reprennent tout ça à zéro.
Ces manœuvres du cadastre ont fait l'objet de vives dénonciations. Les saisines ont été immédiatement initiées auprès du préfet de l'Océan.
Nous sommes implantés.
Majesté Zé Charles, chef du village de Bidou.
Dès que vous traversez les deux ponts là.
Quel est ce travail? Si peut-être on tourne là, tu prends les gens, on prend les bâtiments, on commence à les saccager. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu es dans un village, tu ne donnais pas les choses de village, mais nos tables, mais on se met à faire, à mettre les bornes de gauche à droite. On a donc ce préfet, le préfet est arrêté.
L'épineux problème de démarcation des limites entre le village Bidou 3 et la Soka Palm n'est pas un fruit du hasard, comme l'explique Sa Majesté Zé Charles.
Bon, maintenant, c'est le dialogue entre Soka Palm, les riverains et l'État. Hein? Parce qu'auparavant, ça n'existait pas. Il y avait toujours des problèmes entre Soka Palm et nous. Et maintenant, on s'est assis. On a dit que non, pour que ce dialogue passe, il faut automatiquement qu'on forme une tripartite. Et c'est le préfet qui corrompt. Donc c'est là qu'on déporte tous les problèmes qu'on avait à Soka Palm. On amène ça. Chaque village pose son problème. Le préfet parle avec tout le monde qui est là. On essaie de débattre ensemble pour trouver des solutions.
Reste que les différentes communautés riveraines à la Soka Palm sont sur les starting blocks, attendant avec une certaine impatience le rapport final de ce processus de démarcation. Si à Pungo Aviation, la contestation de ce rapport est acquise, à Bidou 3, les cœurs rudement mis à l'épreuve pourraient retrouver le calme avec le verdict qui sera prononcé par la commission, espère le chef du village.
Parce que là, maintenant, nous sommes maintenant, je pense qu'on attend maintenant les résultats de nos limites. Parce que le rapport est fait, c'est parti au ministère. Jusqu'à la dernière partie du préfet a demandé qu'on lui sorte donc si peut-être le ministère a déjà envoyé des résultats par rapport à ces 3500 hectares qu'on veut retrocéder au rivière la Soka Palm.
Derrière un petit bosquet se découvrent les habitations de la communauté Mapula du village Nyamlané dans l'arrondissement de Kamou. À quelques kilomètres d'ici, sur près de 2000 hectares, pousse une palmeraie à huile de l'agro-industrie Camvert. Le projet maturé va couvrir 50 000 hectares de palmeraies avec 3 usines de transformation selon les informations fournies par le site de l'agro-industrie Camvert. La démarcation des limites entre cette agro-industrie et les riverains n'a visiblement pas fait problème ici. La société est plutôt félicitée d'avoir repoussé de peu ses limites avec le village, avec cette précision que l'initiative a été enclenchée par la communauté. Basile Nko est ancien d'église et natif de Nyamlandé.
D'après les anciens du village, on a dit qu'il fallait que Camvert pousse encore la limite. La limite de l'UFA, qui pousse encore ça très loin pour que
les villageois bénéficient
des apports écossais. C'est pourquoi, en complicité avec Camvert, ils ont repoussé encore la limite. Ils ont repoussé la limite parce que la limite était à proximité du village. C'était à moins d'un kilomètre.
De ce village?
Oui.
La limite de l'UFA.
De l'UFA.
Parce que Camvert vient prendre l'UFA.
Donc, Camvert, en complicité avec Camvert, Camvert a repoussé pour que le champ là ne sorte pas à un kilomètre. Ça nous arrange. Et par rapport à Camvert, ça nous arrange. Donc Camvert a eu l'initiative de nous mettre encore la limite, de nous pousser encore la limite. À peut-être à 5, ça doit être à 5 km, ça arrivait à le fleuve Bongola, du Sorignabizane.
Pour être tout à fait précis, signalons que les limites évoquées ici et pour lesquelles Camvert aurait accepté de repousser à plus de 5 km du village Nyamlandais concerne l'ancienne unité forestière d'aménagement déclassée en 2019 et reprise par l'agro-industrie. Riverains, elles aussi des agro-industries dans le département de l'Océan, les peuples autochtones de forêt sont également confrontés à l'épineux problème de démarcation des limites. Quand ce ne sont pas les agro-industries, ce sont leurs voisins bantous qui se muent en chasseurs de terrain. Qu'il s'agisse des premières cités ou des seconds, leur ombre plane donc sur les limites des terres appartenant à ces autochtones de forêt. Au campement Zamba Alo, dans le village Nyamlandais, à 4 km de Campo, l'agro-industrie Camvert et quelques bantous sont indexés de violer les limites des terres des peuples autochtones de forêt. Henri Lema, chef Bagini, au campement Zamba Alo.
Le sous-préfet est venu ici, il est venu trouver qu'ils ont mis les bornes dans les terrains.
Voilà, il y a un terrain, on dit non, ouais. Yo, mais là, non, quand Bourba Pane, ouais, bah non, mais ça, bien, signe, hein. Mais là, on a beau, bah, qu'il n'a pas bimé. Bourba Quaro.
Il dit que quand les gens du village, les bantous viennent au village, ils veulent même venir prendre le terrain avec la force, on veut même lui taper.
Bon apenda.
À plus de 70 km de là, précisément au campement Bonafenda, piégé entre les plantations d'Evekam au sud et celle de la Socapalm au nord, la vie n'est guère un long fleuve tranquille pour ces autochtones de forêt installés ici depuis plus de 50 ans. Ces dernières années, leurs relations avec les Bantous se sont dégradées sur les limites foncières. Raymond Mimfundi est un Bagueli du campement Bonafenda.
Il y a Babibande, il y a Tielempa.
Il dit que eux avec les bantous là ça ne donne pas, ils ne vivent pas à l'aise avec eux.
Là on veut dire, on bio, y a mais le valentin na, il est que l'on copie na car quel embo encore, il car les bons pas.
Ok, ils ont d'abord le problème de terre avec ce bantou, donc ils veulent que peut-être si le gouvernement ne met pas pied sur ce problème ça ne va pas marcher.
Un peu on dit.
De son côté, il dit qu'il est en colère parce qu'ils sont envahis dans les sociétés. Ils sont aussi envahis aussi avec leurs frères Bantous. Donc, de son côté, il voit qu'il faut que le gouvernement doit déjà chercher à leur donner leurs parcelles de terrain, leurs parcelles de forêt, pour qu'ils puissent mieux vivre en paix.
Bien courageux est celui qui pourrait déterminer ici où se situent les limites des terres appartenant à la Sokapalm ou à Efekam et où débutent celles des Baguedi du campement Bounafenda. Au milieu de ce chassé-croisé de revendications, comment les communautés riveraines des agro-industries procèdent-elles pour résoudre ce problème des limites? À l'occasion, certains responsables dans le cadre associatif disent avoir bénéficié de renforcement des capacités. Patrice Gérard Migna, de l'Association des bons voisins dans le département de l'Océan.
Nous avons bénéficié de l'accompagnement de du Service national justice et paix de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, SNJP, qui de temps en temps nous essayait de nous accompagner dans la gestion de crise entre la Sokapalm et les riverains. Donc c'est dans ce sens-là que nous, responsables de l'association, on a eu des petits séminaires avec le SNJP.
La problématique de la sécurité foncière dans le département de l'Océan demeure cependant préoccupante. Cela passe, on le voit bien, par la prise en compte des préoccupations de toutes les forces agissantes dans ce domaine. Acteurs les plus faibles, ceux aux besoins spécifiques et enfin ceux aux droits fonciers les plus précaires. L'objectif, à terme, étant de faire de la terre un facteur d'épanouissement pour tous.
C'est une question de curiosité au centre de Vox Pop ce jour. Comment les communautés du département de l'Océan déterminent-elles les limites foncières généralement? Est-on sorti du traditionnel coutumier ou a-t-on embrassé à deux mains le modernisme? Écoutons ces deux avis très importants recueillis pour vous.
La question des terres dans nos contrées n'est pas encore tellement grandiose à travers le système de bornage et ceci. Nous vivons encore dans l'harmonie, chacun sachant que ma grand-mère a eu à exploiter ce loupin de terrain pour des travaux. Bon, ça se limite là, le territoire lui revient. Ce n'est que depuis quelque chose comme 4 ans que nous avions commencé à connaître les problèmes du terrain dans nos zones telles, le terrain m'appartient tel. Nous sommes déjà en train de développer l'idée de faire venir des géomètres pour que, à travers le bornage, l'homme se dise propriétaire d'un loupin de terrain. Parce que à travers le bornage, on vous sort un croquis et ce croquis vous donne accès à un morcellement. À travers ce morcellement, vous pouvez développer déjà l'idée d'obtenir un titre foncier. Maintenant, s'il vous arrive un problème, une réclamation, la loi du Cameroun reconnaîtra la méthode avec laquelle vous vous êtes confronté pour obtenir le bornage, le morcellement et le dossier de titre foncier.
Comment faites-vous dans votre village pour sécuriser les limites sur vos terres? Comment
alors,
ça se passe?
Alors, on a deux types de réalisation de limites. On peut passer par la voie de plantes de fleurs rouges. Rouge, exclusivement rouge. Une fleur qui ne meurt jamais. Qui ne meurt jamais. Ou à défaut, on appelle le collège des sages, n'est-ce pas, la notabilité, pour qu'il délimite le terrain. Mais toutefois, il y aura toujours ces fleurs rouges. Il y aura toujours ces fleurs rouges. Je viens d'avoir ce cas. Je viens d'avoir ce cas d'il y a seulement 6 mois aujourd'hui. J'étais en conflit avec un voisin, un cousin, frère voisin. Et j'ai fait asseoir tout le conseil des sages. Ils sont allés en brousse et ils ont débilité le terrain. Et par conséquent, ils avaient imploré que nous plantions cette fleur rouge qui est symbole, n'est-ce pas, d'une limite traditionnelle. À moins que ce ne soit une limite traditionnelle normale, comme un ruisseau, comme un arbre qui délimite autre chose. Donc c'est comme ça.
Et quand le village est par exemple riverain d'une société par exemple forestière, d'une agro-industrie, vous faites comment?
Quand le village est riverain d'une société forestière, d'une agro-industrie, telle que c'est accommodé chez moi à Comme deux. Alors là, on se réfère d'une part à la mairie, d'autre part au chef. Et là, la délimitation est, n'est-ce pas, conjointe entre l'administration et la chefferie.
Est-ce que ça nécessite des coûts? Ça nécessite des dépenses financières? Est-ce que les communautés sont toujours en mesure de supporter ces dépenses-là?
Absolument. C'est l'acquéreur, celui qui vient, c'est lui qui supporte les dépenses. Comme vous avez parlé d'une agro-industrie, c'est l'agro-industrie qui doit supporter les dépenses. Et c'est forcé. C'est forcé. Parce qu'on ne peut pas léguer un patrimoine à une agro-industrie sans qu'elle subisse quelconque dépense.
Vous écoutez Land Voice sur Radio Nkouli Makeli. Land Voice, l'invité du jour.
Existe-t-il des approches en matière de sécurisation foncière sur les différents usages de la terre, de manière à identifier en amont l'utilité de chaque espace de terre qu'on pourrait mettre, selon le bon sens, à l'abri d'une attribution susceptible d'être plus tard conflictuelle? Les communautés peuvent-elles être associées à une telle approche? L'ont-elles déjà été dans le département de l'océan? Avec quels résultats à ce jour? Notre invité est un grand défenseur et artisan de la cartographie participative. Teneur, contexte et application.
On m'appelle Nfomengo Edouard, comme ça a souvent été en Koulibakéli. Je travaille pour une ONG locale OAL, basée à Comme deux, au nom CADER, Cercle d'appui au développement rural. On a développé plusieurs compétences par des formations qu'on a eues. Il y a la cartographie participative qui est dedans. Il y a l'accompagnement des peuples autochtones, la Mapapi. On a été formé aussi sur le CLIP. Plusieurs formations sur l'accompagnement sur les forêts communautaires. Et on ne peut pas tout citer.
Alors aujourd'hui particulièrement, nous allons nous apesantir sur la cartographie participative. Qu'est-ce que c'est déjà?
La cartographie participative, je peux dire, c'est un outil de dialogue, un outil de négociation, un outil de plaidoyer et un outil de règlement de litige ou de conflit.
Comment est-ce que cela s'applique, par exemple, pour le cas spécifique du département de l'océan?
Dans le département de l'océan, la cartographie participative, chaque cartographie participative a un objectif. C'est par objectif, ça peut être des litiges entre deux communautés, ça peut être des litiges entre les communautés et les exploitants forestiers. Ça peut aussi être des situations d'accaparement des terres, peut-être pour le développement des projets structurants qui occupent des vastes espaces de terres qu'utilisent aussi les communautés, dont les communautés sont riveraines.
Alors, tout au cours de cette émission, si nous avons parlé de la problématique de la démarcation des limites, la dématérialisation des limites, est-ce que la cartographie participative est un élément qui peut y concourir? Et
oui, comment? C'est déjà même prévu par la loi forestière, peut-être dans la création des forêts communautaires, on demande que les communautés s'entendent sur des limites. Parce que la loi dit une communauté, un village ou un hameau peut solliciter une forêt communautaire. Et ceci doit passer par la réunion de concertation après une cartographie participative que les communautés se sont entendues sur les limites. Maintenant, par l'accaparement des terres, peut-être un projet infrastructurel, un projet agro-industriel, un projet minier, la cartographie participative est nécessaire pour voir les usages des communautés et tout ce que les communautés tirent dans leurs espaces. Parce que quand on filme ou on met un projet, on voit la forêt, on pense que l'avion filme. Mais pourtant, la cartographie participative va montrer toutes les utilisations qui sont faites dans cet espace, les activités économiques pour tirer le minimum pour vivre, les activités culturelles, les activités cultuelles, la santé aussi. Tout ça et chacun tire. Et la cartographie va permettre de sortir cette dynamique d'utilisation dans un village ou dans une communauté, comment l'espace est utile.
Et là, ce sera dans des zones où l'agro-industrie, où le projet, par exemple, d'infrastructure ne devra pas atteindre, c'est ça?
Et c'est que, comme on ne peut pas limiter les projets, dans d'autres pays, la cartographie participative est préalable au développement d'un projet. Et cette cartographie participative peut souvent même annuler les projets, ce qu'on appelle le CLIP. Parce que le CLIP, dans d'autres pays, est utilisé comme le droit de veto, droit de dire non. Mais maintenant, dans notre contexte, c'est pour aider à la négociation, comment compenser les pertes irréversibles, les impacts irréversibles, négatifs irréversibles causés aux communautés. C'est ça. Donc, ça sera visuel. On va montrer ici, les chasseurs vont montrer comment ils vivent. Il va montrer les cabanes de chasse, il va montrer ce qu'il tire. Celui qui pêche va montrer comment cette zone lui est utile. Les agriculteurs vont montrer comment cette zone leur est utile. Les collecteurs de PFNL vont trouver et aussi...
C'est-à-dire des produits forestiers.
Oui, le lien culturel, les
produits forestiers
de
non
communication lignés. Que ces populations ont avec l'espace. Peut-être c'était leurs anciens villages. Il y a les tombes, parce qu'il y a toujours un lien avec les tombes de la famille. Aussi, ils exercent des cultes. Il y a des zones sacrées dans une forêt. Mais quand l'avion filme, elle ne montre pas, il ne montre pas tout ça. La photographie ne ressort pas tout ça.
Alors, dites-moi, en pareille circonstance, Edouard Nfom, ce sont les communautés qui font ce travail et le rendent peut-être à l'agro-industrie ou à l'État. Ou alors c'est un travail qui est fait entre l'agro-industrie et les communautés, avec l'appui naturellement des spécialistes, par exemple, de la cartographie participative.
Dans le contexte camerounais, ce sont les villages, les communautés qui le font, parce que la loi n'a pas véritablement intégré ça, que ça soit obligatoire. Ça se parle dans les normes d'intervention en milieu forestier, quand on veut exploiter une assiette, l'entreprise exploitatrice de la forêt doit entrer avec les villages pour identifier les ressources utiles. Peut-être les villages utilisent le moabi et la société veut couper le moabi. Ils doivent s'entendre pour laisser un nombre de moabi aux communautés. Même pour faire les routes, on ne doit pas détruire les arbres qui sont utiles. Même que la société ne pourra pas utiliser, ça doit se faire, mais ça ne se fait. Aucune société forestière ne l'applique, même celles qui sont les certifications.
Dites-moi donc, M. Edouard Nfom, est-ce qu'à l'issue de ça, on va dessiner sur un bout de papier que là, on a trouvé une rivière, là, on a trouvé telle chose, pour que ça s'appelle cartographie participative?
Nécessairement, c'est ça. Celui qui vient à la technique, comment faire? Mais il vient, il ne peut pas le faire. C'est ceux qui sont au village qui maîtrisent leur forêt. C'est eux qui vont faire donc la cartographie participative. On leur forme à dessiner d'abord la carte au sol. On vient, on dit, on veut faire la photo de votre forêt. Et c'est vous-même qui allez faire votre photo de votre forêt parce que vous la connaissez. On les forme, donc on dessine d'abord au sol comment ils se déploient en forêt. Ils vont où jusqu'à où, comment on marche. Et maintenant, on va former les gens dans l'utilisation du GPS. Et ils vont donc entrer en forêt, collecter toutes les zones, tout ce qu'ils font en forêt. Et ça va ressortir et ça sera visualisé.
Alors, imaginons une communauté dans laquelle les gens n'ont pas un bon niveau d'éducation. Est-ce que la cartographie participative peut être encore effective à cet endroit?
Elle est toujours effective. On pense qu'ils n'ont pas d'éducation. Voilà pourquoi les guides, celui qui vient, qui est éduqué, est-ce qu'il connaît la forêt? Il est ingénieur forestier sans connaître la forêt. Mais celui qui est au village n'est pas ingénieur, il n'est pas été à l'école, mais il est ingénieur parce que lui connaît. C'est lui qui va vous accompagner. Ils peuvent être aidés par ceux qui peuvent utiliser le GPS ou enregistrer les données par écrit. Et ce travail est fait, même si la communauté n'a jamais été à l'école, elle vous accompagne et dit, nous on marche ici, on entre ici, on appelle ici, tel à tel nom, on arrive ici, voici ce qu'on fait à tel endroit, et comme ça, pour montrer tous les usages que la communauté fait de la forêt. Elle ne demande pas un niveau d'école conventionnel tel que si je peux le dire.
Alors, est-ce que vous avez connaissance de ce qu'une telle opération se soit déjà déroulée dans les villages du département de l'Océan, riverain, des agro-industries ou des grands projets d'infrastructure?
Oui, la première fois que la communauté, la cartographie participative arrive dans l'Océan, c'est fait les années 1999. Lors de la création du parc national de Campoman. Parce qu'on sait que la loi dit le parc, toute activité est interdite dans la, en dehors des recherches qui sont autorisées. Mais maintenant, que ferons-nous des populations autochtones Bagheli, dont leur vie ne dépend que de la forêt? Le CED, qui vient d'abord avec l'idée, a fait une cartographie participative pour montrer à l'État que voici, comme vous interdisez, voici comment les gens, s'ils n'entrent plus, ça veut dire vous les limitez et vous les sacrifiez, vous les tuez. Et les négociations ont abouti à ce qu'on arrive à la signature des accords de cogestion pour que ces populations puissent avoir accès de résidence, accès de circulation, accès d'exploitation, à certaines limites aussi des normes réglementaires. Mais ils sont libres d'aller résider. Et on a établi certaines règles. Et ça se cogère entre ces populations et le ministère des forêts.
Est-ce qu'il y a eu donc une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois de cartographie participative? Avec quel impact, selon votre connaissance, dans le département de l'Océan?
Dans le département de l'Océan, j'ai dit d'abord pour la mise en place des forêts communautaires, la cartographie participative a agi. Bien sûr que c'est une cartographie participative qui ne marque que les limites, pas les usages. Mais à d'autres endroits, je crois que si aujourd'hui, Socapalme a renoncé pour diminuer sa concession qui lui avait été attribuée. Je pense que c'est à travers cette cartographie participative et même EVECAM.
Dites-moi, monsieur Edouard Foum, ce que vous expliquez aujourd'hui, la notion de cartographie participative, en temps normal, elle doit se faire en amont, avant que le projet ne vienne s'installer, ou alors ce moment où naissent, par exemple, les conflits.
Elle doit se faire en amont pour éviter des conflits. C'est quand on ne l'a pas fait en amont que ça génère des conflits. Et comme à toute étape, on peut arriver à trouver des solutions, on fait donc une cartographie participative. Même comme EVECAM est déjà implanté, qui avait les Socapan étaient déjà implantés en mettant leur monoculture, les populations savent tout ce qu'ils avaient là. Leur village là où ils habitaient et ça se pratique.
Et est-ce que l'État a vraiment l'obligation de prendre en considération le fait que, voici cette communauté nous a brandi une cartographie participative?
C'est que l'État fait comme si c'est sourd d'oreille, mais elle accepte quand même des négociations, elle ne défend pas qu'on en fasse. Mais ce n'est pas une obligation légale. mais elle devrait être, on devrait l'intégrer dans d'autres pays, que avant tout projet, on devrait d'abord faire cette cartographie participative. Si l'État va même, il saura que voici le tort que je veux causer à telle communauté et voici des moyens que je mets en jeu pour résorber ou résoudre ce problème. Les moyens, les possibilités alternatives.
Alors généralement, on voit souvent des services qui descendent sur le terrain dans le cadre d'une commission avec les autorités administratives et on délimite. Entre cette procédure et la cartographie participative, laquelle vous paraît plus idoine, mieux appropriée pour résoudre le problème foncier aujourd'hui au Cameroun?
Je pense que la cartographie participative est là. Et l'État aussi est là. Le développement doit continuer. C'est seulement pour résoudre, voici ce qu'on prend, moi l'État. Et en prenant ça, mes populations aussi profitaient de ça. Voici maintenant, comme j'ai délimité, voici ce que je prends et voici comment compenser. Vous voyez, même aujourd'hui, c'est peut-être l'État en train d'encourager l'exode rural. De nombreux projets se passent. On n'indemnise même pas les mises en valeur. L'État refuse souvent d'indemniser. Si on voit sur la route Kribi, Grand Zambie, on n'a pas fait d'indemnisation, mais on a détruit les choses de l'autoroute. Les gens
pleurent. La population a bénéficié quand même de la route.
Tout le monde bénéficie de la route. Est-ce que les fonctionnaires et les travailleurs des routes là, si on dit aux fonctionnaires que toi aussi tu travailles un an, deux ans, parce que quelqu'un qui a mis peut-être sa cacaoyère, c'est sa source de vie pour inscrire ses enfants à l'école. Le fonctionnaire, c'est son salaire qui lui permet de mettre ses enfants à l'école. À quel fonctionnaire on va dire va au travail? Et ton salaire, tu ne le prends pas parce que l'État veut faire un projet. Pourquoi c'est l'homme qui vit dans la communauté au village qu'on marginalise? Ça, c'est une vraie marginalisation.
Pour le cas spécifique, vous avez parlé de la route Kribi-Grand Zambie. C'est cette route-là qui permet d'arriver jusqu'à Bipindi. Oui, mais est-ce que là, il y a eu des villages qui avaient peut-être une cartographie participative et qui ont eu à revendiquer, à présenter aux responsables du projet ce qu'il ne fallait pas détruire, ce qu'il fallait conserver?
La route n'est pas un grand... Ça occupe un espace grand quand on réunit tous les villages. Mais la route passe là où les gens vivent et on fait des mises en valeur. Quand on détruit ce que j'ai préparé pendant peut-être 10 ans et qui me permet de vivre, on vient enlever ça, on ne m'indemnise pas. Et pourtant, la loi dit que l'indemnisation est préalable. C'est bien dans les textes de loi. Mais pourquoi celui qui est au village, on ne l'écrit? Quand on essaie aussi de faire 10 ans, on ne paye pas les fonctionnaires. Qui ira au travail?
Est-ce que, Edouard Fouma, après avoir fait sa cartographie participative, une communauté peut peut-être demander un titre foncier, immatriculé des loupins de terre?
Non, la loi ne le permet pas. La cartographie participative doit être un élément d'immatriculation des terres communautaires. Mais la loi prône surtout la matriculation individuelle. Et c'est la chose qui reste pour les élites.
C'est ici que s'achève cette édition de Land Voice, un programme que vous pouvez écouter tous les lundis entre 10h et 11h sur Radio Nkouli Makeli. Une émission qui vous a été proposée avec l'appui financier de l'Union européenne. Land Voice est une production du réseau de lutte contre la faim RELUFA dans le cadre du projet LandCam mené en collaboration avec le Centre pour l'environnement et le développement CED et l'Institut international pour l'environnement et le développement, IIED. Merci à l'ensemble de l'équipe de production. Derrière le microphone de coordination, Emmanuel Junta. À très bientôt sur les antennes.